RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
François, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu ?
Ça va bien, avec la pluie. Ça fait du bien en même temps.
Temps légèrement humide, ouais, ça fait du bien.
Oui.
Après cet été très sec, alors bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Rabaune. Alors, je vais épargner l'âge.
Bonjour.
Je vais juste dire que tu es Verseau, comme moi, comme notre invité précédent, Jérôme Sévéon.
Eh bien, ça en fait des Verseaux.
Avocate, leader du groupe d'opposition municipale Anima Calvez. On va donc, par cette émission, clôturer un petit peu le chapitre des personnages municipaux, entre guillemets. Je me suis imposé l'équité, et ça aurait été bien que quand ce matin s'impose ce petit principe fondamental à une certaine période. Alors, avant toute chose, Claudine, merci de venir nous raconter ton calvi, ton parcours. Comment ça va ?
Écoute, ça va bien, malgré la pluie, ça va même très bien. Mais bon, tu n'as pas encore commencé à me poser des questions.
Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu cette petite période de pandémie. Comment tu l'as vécu ?
Alors, je vais te dire que je l'ai bien vécu en réalité au départ. Au départ, si ça n'avait duré que 15 jours, c'est arrivé à point nommé après les élections municipales et ça m'a quand même permis de me reposer. Malheureusement, ça a fait prendre conscience quand même bien de la situation de certaines personnes. Ce confinement que nous avons vécu quand même pendant 2 mois, il ne faut absolument pas qu'il se renouvelle. Et là, je tiens quand même à préciser que nous devons tous, chacun à notre niveau, respecter toutes les mesures de précaution qui nous sont préconisées par les professionnels de santé, même si c'est vrai que comme je trouve que la communication du gouvernement à cet égard a été assez calamiteuse quand même.
Alors en plus, la rentrée judiciaire, comment ça se passe ? Suite à cette petite pandémie, il y a eu la grève aussi, post-pandémie. Je suppose que tu dois crouler sous le travail.
Alors je vais te dire, je pense en avoir parlé d'ailleurs avec toi pendant cette brève campagne électorale que nous avons menée ensemble. Ça, personne ne l'ignore. Nous sortions de 2 mois de grève quand même, puisque nous nous étions opposés à la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, d'ailleurs, n'a pas été adopté. Peut-être que le Covid ou la Covid y est pour quelque chose. Mais c'était une réforme contre laquelle nous étions rond debout. C'était très rare qu'il y ait 2 mois de grève continue pour des avocats parce que ça mettait en péril. Alors, personnellement, eu égard à mon âge, comme tu l'as rappelé si aimablement, je dirais, je suis peu touchée en réalité par la retraite. Nous avons un système particulier, nous avons cotisé individuellement et nous avons constitué une réserve qui nous permettait d'assurer une retraite certes modeste pour tout le monde et égalitaire. Nous pouvions voir sur les 30 ans à venir. Et du fait de l'augmentation des cotisations et du fait que l'État avait prévu de mettre la main sur cette réserve, les jeunes risquaient fort de se retrouver dans des situations, dans une précarité très importante. À la suite de ces 2 mois de grève, nous avions stoppé la grève parce que non seulement, évidemment, il y avait des cabinets qui étaient dans une situation financière difficile, des emplois qui allaient commencer à être menacés et qui étaient menacés de secrétaires, par exemple. Il y avait également l'intérêt du justiciable qui était en jeu, bien que j'ai été assez étonnée, et tous les confrères l'ont été. Je dirais que nous avions fait une grève qui a été suivie, bien que nous ne soyons pas une profession si populaire que ça. Les gens nous ont appuyés et les clients ont tout à fait compris les raisons de cette grève. La Covid est arrivée, je dirais, le confinement. Bien évidemment, il n'y a plus d'audience. Alors nous pouvions, nous, plus ou moins continuer à aller au cabinet parce que nous sommes des professions libérales. Nous n'étions pas obligés de rester à la maison. Mais bon, tout était arrêté. Les huissiers, les audiences. Donc rien ne fonctionnait. Plus de courriel, plus de courrier postal. Et c'est vrai qu'on avait quand même un retard tout à fait considérable. C'est d'autant que l'état d'urgence, enfin l'absence d'audience, a continué encore quelques temps postérieurement. Maintenant, bien, il faut, il faut travailler d'arrache-pied pour essayer de rattraper le retard dans l'intérêt des clients.
On va faire un bond en arrière. On va revenir sur ton enfance, le Calvi de l'ère disco, j'ai envie de dire, le Calvi des années 70. Quels sont tes souvenirs d'enfance, tes souvenirs de petite fille?
Pour moi, c'est facile, en fait. C'est facile, ça fait deux fois que je viens dans les locaux de Radio Calvi Citadelle en raison donc de ces élections municipales. Bien sûr, il y a des gens qui l'ignorent, mais il y a encore au fronton d'ailleurs de ce salon de thé, c'est devenu un salon de thé, il est mentionné à Sco. J'ai eu la chance, parce que ma mère était institutrice, d'être allée à l'école maternelle, bien que je n'habitais pas la citadelle, dans cette citadelle. Et c'était extraordinaire. Lorsque je suis remontée, je me dis, mais quelle chance nous avons eue. Quelle chance j'ai eue, bien sûr, mais quelle chance nous avons eue. De passer tous les matins, parce que j'habitais Place Marshall, sous la voûte et sous le fronton Calvi Saint-Père Fidélis, de voir ces pavés, de rentrer dans cette citadelle qui avait quelque chose de quand même de majestueux, qui en impose, et ça stimule quand même l'imagination. Et puis c'était extraordinaire. C'était, avec le recul, quand même une classe d'une mixité sociale extraordinaire, parce qu'il y avait des élèves comme moi qui, grâce à ma mère, habitaient la marine, enfin la basse ville, d'autres qui étaient originaires de la citadelle. Il y avait Sinibald, il y avait les Temkit qui habitaient là, je vais certainement m'oublier. Il y avait Frédéric Guidogne et dont la grand-mère habitait la citadelle. Il y avait Marie-Catherine Cruciani, dont la grand-mère également aussi habitait la citadelle. Enfin, je vais en oublier d'autres. Et puis, il y avait des gens venus d'ailleurs. Il y avait à l'époque également les Pilates. On avait de temps en temps des enfants de militaires, des enfants de gendarmes. Il y avait un peu de tout. Et finalement, on avait ma mère, l'institutrice. On avait bien évidemment... J'ai vu que même, j'avais oublié Grâce Fatigue, chez son beau chignon blond, là. On avait notre tata Toussainte, Madame Poulicagne. Et c'est vrai qu'on a eu, je crois, une belle enfance, une belle école maternelle.
L'élève Claudine, comment était-elle?
C'était l'aînée de quatre enfants. Hein. Je crois qu'elle était sérieuse, je crois que c'est le rôle des aînés. En fait, c'est aussi l'éducation qu'on leur donne. Il faut donner l'exemple, il faut travailler bien à l'école, il faut être poli. Pas trop de difficultés scolaires, non.
Alors, scolarité Nouchral, puisque tu as fait l'école de la Citadelle, le collège à Calvi, ensuite, forcément, Bastia, puisque le lycée de Balagne, c'est que 81, il me semble.
Non, le lycée de Balagne, c'est plus tard.
C'est plus tard.
Je crois que c'est 85-86. En tout cas, je crois que 84, peut-être, 84-85. Je m'en souviens pas trop. Ah mais oui, j'habitais en ville, donc je suis allée à l'école maternelle. Ensuite, nous sommes descendus au primaire. Ensuite, c'était le collège de Calvi. Et ensuite, l'internat Bastia, oui. Et là aussi, je vais te dire, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres qui sont un peu trimballés. Enfin, c'est à la fois une ouverture, mais moi, je considère que c'est de la chance. Parce que j'ai aussi... On lit des amitiés par la suite, quand on est en faculté, lorsqu'on rencontre des gens, lorsqu'on est parent d'élèves. Il y a plein d'occasions d'avoir des amis, mais j'ai eu de la chance quand même d'avoir eu des amis d'enfance, je dirais, de la rue des écoles, le primaire, le collège. Ça apporte un certain confort, c'est vrai. Et puis, elles m'ont suivi jusqu'à l'internat. Enfin, où je les ai suivis jusqu'à l'internat au lycée de Bastia. C'était de belles années. J'ai bien aimé l'internat, en fait.
Orientation fac de droit, pourquoi? Pourquoi ce choix?
Alors, pourquoi ce choix? Alors, c'est un peu compliqué, parce que c'était particulier. J'avais l'impression que j'étais peut-être un peu... J'avais l'esprit un peu rêveur. J'avais le sentiment, alors, pas l'impression, le sentiment, puisque c'est qu'il fallait soutenir cette université, que c'était une manière quand même de tirer notre région vers le haut. Et je n'étais pas vraiment scientifique, c'était pas par mauvaise en maths appliquée, quoi, c'était la base. Mais le droit me paraissait quelque chose qui était à la fois littéraire et carré, je dirais. Je suis toujours attirée par les deux côtés.
Et donc, une fois le diplôme validé, l'installation, comment commence la carrière ?
La carrière, à l'époque, ça a changé. Hein. La carrière, on avait 2 ans de stage obligatoire. Alors, j'ai eu la chance d'être collaboratrice pendant 4 ans. Je suis restée pendant 4 ans. En fait, c'est Maître Ferrandine qui est aujourd'hui décédé, qui était un Île-Roussien. Et donc, je suis allée en balanine taper à son cabinet et il a accepté de me donner ma chance.
Très vite derrière, le rôle de maman qui vient s'ajouter au rôle d'avocate.
Ah ben ça s'est passé en même temps. En
fait. Ça s'est passé en même temps. Comment on jongle avec les deux choses ? Bon, alors c'est effectivement pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Mais est-ce que ça t'a amené des difficultés ?
Ah c'est, enfin oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on est astreint à une discipline. Enfin, on s'astreint à une discipline, c'est-à-dire on doit prendre soin de quelqu'un. Donc forcément, on ne peut pas passer les mêmes nuits blanches, il faut avoir une aide, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer à 5 heures, ça c'est sûr, ni à 4h30, donc on doit avoir recours à une assistante maternelle. Je sais ce que c'est, mais j'ai eu de la chance quand même, parce que bon, j'avais quand même le père de ma fille qui était enseignant, donc il avait la possibilité de sortir plus tôt, de la récupérer. J'ai réussi à jongler. J'imagine très bien les situations difficiles dans lesquelles certaines mamans solo peuvent se trouver pour jongler entre les horaires d'école et les horaires de travail qui sont absolument pas les mêmes.
Alors on va aborder un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire que dans ce type de métier-là, surtout à cette période-là, est-ce que c'est difficile d'être une femme dans un métier plus ou moins d'autorité, quelque part, aux yeux des gens ?
Écoute, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression. Au début, je ne pensais absolument pas, parce que j'avais un côté très austère, j'ai pas un physique de bimbo et ça aide aussi. Mais ça m'a fait penser que souvent les jeunes filles, alors, qui ont un physique plus avantageux, on dira, ont du mal à asseoir leur autorité. Oui. Il y a quand même encore un peu de reste de misogynie. Alors, même si en même temps, on peut avoir finalement des attitudes de confrères qui sont peut-être plus agréable avec des femmes. Il y a les deux.
C'est un milieu misogyne ?
Non, pas plus qu'un autre. De toute manière, maintenant, toutes les professions se féminisent. Alors, je ne vois pas comment je pourrais être misogyne, parce que maintenant, la parité, ça va être l'inverse. C'est-à-dire, on impose une parité, et je crois qu'on ne va plus trouver finalement de garçons pour faire le binôme avec des filles, bientôt.
On arrive en 95, et là, il y a une première expérience municipale.
Oh non, tu allais vraiment exhumer. Ouais.
Alors là, liste Galette, 95, première apparition de Claudine Rabonne sur une liste électorale. Quel souvenir tu en gardes ?
Oh, c'était très instructif.
Campagne tendue.
J'en avais pas trop le souvenir, j'étais jeune. J'en avais pas trop le souvenir. Mais qu'est-ce que tu veux me dire que j'ai fait le choix du mauvais cheval ?
Donc,
campagne tendue, oui, il y avait un peu des réminiscences de campagne dure de l'époque, on peut dire. Voilà, il y avait quand même, je me souviens, oui, d'une chose, mais ça m'avait absolument pas marqué. C'est-à-dire, il y avait encore des billets à clé. Voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Quand je suis sortie de après les résultats, mais il y avait des jeunes électeurs qui avaient été en classe avec moi, qui m'ont fait une aide d'honneur. Bon, plutôt contrepartie, mais tout ça dans le folklore.
Donc tu en gardes quand même un assez bon souvenir. Ouais, ouais. On va faire un petit bond dans le temps et on va arriver à 2020. Alors 2020, constitution d'une liste d'opposition, Anima Calvez, composée majoritairement de jeunes gens. Pourquoi, à quel moment tu te dis... il faut que je porte une autre voix.
Je crois que... Je crois que c'est un secret pour personne. Je me suis rendu compte, alors tardivement en fait, très tardivement quand même, hein, qu'il y avait une partie de l'électorat qui ne se serait prononcé ni pour l'une ni pour l'autre liste. Et c'est vrai que l'opportunité de conduire une troisième voie m'apparaissait comme permettre une plus large expression de la démocratie. Et puis la surprise quand même de découvrir que cette liste, comme tu le rappelles, était constituée quand même en grande majorité de jeunes gens. Ça m'a quand même... je me suis dit, ben bon, allez, on va les défendre. On va les défendre. Et puis, je ne regrette absolument pas mon choix. Je ne regrette absolument pas mon choix parce que je constate quand même, avec le recul, que l'opposition n'a jamais été aussi forte, même si elle est plurielle. C'est une opposition qui n'est pas commune, enfin, qui est plurielle. Eh bien, elle n'a jamais été aussi forte puisque, bah, écoute, 4 et 2, ça fait 6. Hein. Il n'y en a jamais eu que 3 ou 2 hein, depuis 25 ans.
Le fait d'être la première femme à mener une liste lors des municipales à Calvi, c'est une fierté ?
Non, non, c'est pas une fierté, c'est plutôt la constatation finalement, par rapport aux questions précédentes que tu me posais, que, en tout cas, sur ma liste, et la jeunesse en témoigne, je dirais, le fait, l'âge de ceux qui la composent en témoigne, c'est que... Mais, chez nous, finalement, ben, nous sommes très progressistes. Ou en tout cas, ma liste n'est pas misogyne. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça.
Alors, on va arriver au moment, peut-être que tu vas regretter. Ce sont les questions qui fâchent. Ah, on va mettre la petite musique d'ambiance, histoire de te mettre...
D'ailleurs, tu as vu, je tousse déjà. Hein.
Oui, c'est Ennio Morricone. Comme ça met un petit peu dans l'ambiance.
Le bon, la brute et le truc.
Et... Tu me donneras le rôle que tu veux. Alors, pendant cette campagne, le fait d'être avocate et de t'être retrouvée sur les bancs des accusés. Voilà, il y a eu une campagne qui a été passionnée avec quelques débordements, parfois par les réseaux sociaux, puisque si c'est une composante maintenant qu'il faut prendre en compte, qui était moins prenante en tout cas dans les élections précédentes. Comment tu l'as vécu ?
Alors, je vais te dire d'abord, j'étais complètement coupée des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs, certains jeunes de ma liste me le reprochaient. Donc, j'ai refusé de lire ce qui pouvait s'écrire sur Facebook et compagnie. Et puis, les campagnes électorales, c'est vrai que c'était nouveau pour moi. Les campagnes électorales, on sait toujours que dans les bars, eh bien, on va critiquer, c'est facile, on va même faire courir des bruits. Ça m'intéresse pas. Et puis je vais te dire, là, j'ai été aidée par mon métier.
Dans quel sens ?
Bah, tu sais, être avocat, c'est quand même s'exposer à des critiques. C'est un métier quand même qui est assez difficile, quoi. Alors, c'est un débat, c'est un combat, c'est l'étude et le travail de dossier, c'est ça. Et donc, les critiques, forcément, il y a l'adversaire, il y a le client de l'autre, il y a le tien qui trouve peut-être que tu fais pas assez bien le travail, il y a le magistrat qui vient te sanctionner à tort ou à raison. Enfin, c'est quand même un métier qui t'expose à ce genre de choses. Donc, non. Pas plus que ça. Je mettrais quand même une réserve, tu vois, en y pensant et en réfléchissant.
Parce que j'ai oublié le buzzer,
Il y a une réserve. C'est que j'exerce quand même, il y a la confraternité, il y a des règles légales, il y a la communication des pièces. Donc on est quand même dans, il y a un processus, le procès, voilà. Il y a des règles, il y a des choses il y a une ligne rouge que l'on ne doit pas franchir. Et j'avoue, mais on le dit toujours, hein, que bien certains politiques semblent estimer, parce que pour moi, il y a toujours des règles, Il y a des règles de société, il y a des règles en politique, c'est la chose de tous. Il y a toujours des règles. Alors, on va dire, bon, alors, qu'est-ce qu'elle est rigide ? Non, non, je ne suis pas rigide. C'est le vivre ensemble qui exige cela. Il y en a qui semblent s'en affranchir et croire qu'en politique, tout est permis, que l'on peut tout raconter. Ne pas dire la vérité, la communication, et ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas.
Le score, deuxième question. 415 voix. Est-ce que ça valait franchement le coup ?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse un mea culpa en disant oh non, mon Dieu, ça ne valait pas la peine pour 415 voix. Oh, écoute, sur le moment, on est toujours déçus, puis on se dit, avec le recul, tu vois, la Covid.
Il n'y a pas d'aigreur par rapport au score ?
Non, mais tu plaisantes.
Je pose la question.
Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, franchement, j'ai cru quoi ? J'ai cru qu'en Chantilly, il allait me donner les clés de la principauté dans un petit coffre, quoi. J'ai fait un rêve et je me suis rêvée maire de Calvi en février pour le 15 mars. Non, il faut. Non. 415 voix, je vais te dire. Alors, évidemment, c'est pas un objectif à avoir dans l'avenir pour qui que ce soit, moi ou une autre ou un autre. Mais c'est pas mal. Si tu réfléchis bien, c'est pas mal. On va dire positive à outrance. Non, c'est pas mal. Un mois de campagne, aucun soutien financier, aucun soutien politique. 415 voix, c'est 15%. Tu compares par rapport à d'autres villes, c'est pas mal. Et je vous félicite parce que c'est manifestement 415 voix que l'on a eues grâce à la composition de la liste et aux individus qui la composaient uniquement.
Alors là, je vais faire un coup bas. Dernière question. Est-ce que tu penses, parce que bon, le nom d'Aurabonne résonne quand même dans Calvi, est-ce que tu penses que c'était un poids dans cette campagne ou au contraire que c'était plus facile au bout du compte ?
Ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Écoute, je m'appelle Aurabonne. Je considère que avoir eu mes grands-parents, les grands-parents que j'ai eus, la mère et le père que j'ai eus, ben là encore, je vais te dire, j'ai eu de la chance. Enfin, tu te rends compte, j'avais un grand-père médecin qui m'a mis au monde dans une maison, au centre de Calvi. J'allais à l'école à pied. J'allais à l'école, je traversais la rue des écoles, je descendais. Alors oui, j'étais quand même obligée, parce qu'un petit mot pour ma grand-mère, quand même. Un petit mot qui a pendant 50 ans tenu la chorale de Calvi. Alors, on y allait tous les dimanches, au moins jusqu'à pas trop longtemps, jusqu'en 76, je crois. Parce que ma mère était beaucoup moins pratiquante. Et on est monté s'exiler à Pietra Maggiore. On allait tous les dimanches à la messe, il y avait la chorale, c'était quand même quelque chose, et ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, et quand je les revois, j'ai beaucoup d'affection, enfin j'ai beaucoup de plaisir à revoir toutes ces personnes qui ont été des figures de mon enfance. D'ailleurs, je vais te dire, il y en a qui étaient enfants de cœur et dont on ignore même ce passé.
Alors, j'ai pas le buzzer. Aujourd'hui, je l'ai oublié. Les gens vont dire, il a fait exprès parce que c'était Claudine. Non, je vais essayer d'aller plus en avant dans la question. Ça peut faire partie des choses sur lesquelles on peut te reprocher. Ah ben voilà, effectivement, à Aurabonne, le grand-père était maire. Ah, elle veut faire pareil. Ça fait partie des choses sur lesquelles on t'a attaqué.
Mais écoute, mais si on m'a attaqué, mais alors c'est quoi ? Mais enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'alors, n'importe quel homme politique, enfin, je veux dire, c'est souvent, en fait, d'ailleurs, certains ont pris leur suite de leur père, nous, en ce qui me concerne, on peut pas dire qu'on ait réussi, non, à le faire. Non, je suis très fière de mon grand-père, tu vois. Je suis très fière de mon grand-père et je vais te dire, tu parles de la politique, là où j'ai le plus souvent pensé à lui, en réalité, c'est pas tant en matière de politique, parce que bon, quand même, je vais te rappeler quand même que j'avais 3 ans quand il a perdu. Hein. C'était en 71. Hein,
oui, il y a eu une grosse rupture entre
Il y a eu une grosse.
Il n'y a pas eu de passage de témoin.
54 ans. Non, pas du tout.
Ça se serait ressenti au niveau du score.
Je crois même que. Je ne sais pas s'il aurait apprécié. Mais je me suis rendu compte que tout ce qu'il avait pu nous véhiculer, l'image qu'on avait les gens aussi beaucoup, parce qu'il était quand même très humain et finalement peut-être vilipendié pendant les campagnes électorales, mais en tout cas très aimé, ça je m'en rends compte encore aujourd'hui. Je me suis rendu compte que défendre et soigner, c'est très proche. Parce que il avait toujours beaucoup d'empathie, il essayait justement d'être un avocat. C'est ne jamais être dans le jugement. C'est tu es, tu protèges, tu. Alors c'est pas le même métier bien sûr, médecin, la santé c'est pas la même chose qu'être avocat, puisque moi en plus je fais pas de pénal, donc j'ai pas la vie des gens entre mes mains. Mais j'ai souvent senti que être en dehors de la sphère sociale, ne pas être dans le jugement permanent, c'était quelque chose que dans ma famille on m'avait appris. Et puis
il y a le secret, surtout, un point commun aussi.
Exactement. Mais écoute, tu me l'as enlevé. Tu as raison, le secret professionnel, c'est très important. Alors je vais être prosaïque dans mes propos, mais tu te rends compte, tu vas chez un inconnu, tu vas aller chez un médecin, tu vas lui confier des faits intimes, tu vas livrer toute ton intimité. Eh bien, un avocat, c'est pareil. Si tu vas chez un inconnu, alors on va dire tu vas chez un tel parce que ci, parce que là, mais tu vas être obligé de lui livrer toute ton intimité. Si tu n'es pas sûr que rien ne va être divulgué, que tout va être gardé, que le secret va être bien gardé, ben, tu n'établiras jamais la confiance. C'est très, très important.
On va passer aux questions flash. Alors, les questions flash, elles sont très simples. Si Calvi était, alors par exemple, si Calvi était un trait de caractère, ce serait lequel ?
Alors, si on est dans la citadelle, allez, la forteresse, la force, mais il y a aussi la marine, il y a le faubourg, la pluralité.
Une qualité ?
Pareil.
Un défaut ?
Allez. Une mauvaise santé. En ce moment, une mauvaise santé.
Un animal ?
Alors, écoute, un animal, franchement, bon. Alors là franchement, il n'y a pas de joker, il n'y a pas le buzzer, là.
Non, il n'y a pas
un
de
zèbre,
joker.
Allez, un zèbre. Un zèbre. Non, je ne sais pas, un zèbre. Ah. Oui, il paraît que c'est intraitable. Bon, on dit qu'il n'est pas domptable, alors certains disent qu'il est... Mais en tout cas, il a un instinct de survie extraordinaire.
Un héros de fiction et un héros de la vie réelle. Est-ce que tu en as ?
Un héros de fiction ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire l'ado ? Enfin, c'est pas l'ado, parce que je trouve que c'est... Bah, écoute, j'ai la bande dessinée, j'ai beaucoup aimé Corto Maltese, d'Hugo Pratt. D'abord, il était beau. C'était un marin aventurier. Non, j'aimais bien.
Et dans la vie réelle ?
J'en ai beaucoup. Je suis plutôt... J'aime bien les anti-héros aussi.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme ?
Je crois... J'aime pas trop la suffisance et les gens qui affichent du mépris envers leur prochain.
Une phobie ?
Alors, je vais faire la fille, quoi. Les souris. J'en ai régulièrement à la campagne et les souris.
Est-ce que tu as un livre de chevet ou un objet qui te suit, et un objet qui te suit depuis longtemps ?
Non. Non, j'ai pas d'objet. Non. J'avoue, je suis pas très matérialiste. De temps en temps, il y a quelque chose qui me plaît. Alors que non, j'ai pas d'objet. J'ai pas d'objet fétiche. Désolé.
Ah.
Non, j'en ai pas. Après, un livre, pas d'avantage. J'ai pas de livre de chevet. Par contre, j'en ai lu un récemment. Bien aimé d'ailleurs, de Jean-Christophe Ruffin, qui est, je trouve, un très bon écrivain. Il était médecin d'ailleurs, mais il est rentré à l'académie. C'est Le Grand Cœur.
Alors d'ailleurs, est-ce que... Parce que du coup, ça me fait penser à une question.
Finalement, on discute. Attention.
Carrière d'avocate, un travail d'opposition qui est fait et qui doit être prenant. Est-ce que tu arrives à t'accorder quand même des moments à toi ? Parce qu'au bout du compte, c'est un métier qui est prenant. Pareil, tu fais les allers-retours entre Bastia et Calvi pour assister et faire part de tes idées lors du conseil municipal. Est-ce que tu arrives quand même à t'accorder quelques moments à toi ?
Chez le coiffeur, pour l'être. Non, c'est difficile. Il faut d'ailleurs... Oh, ça va être horrible de faire un macro pas comme ça. Il faut que je m'organise un peu mieux. Non, c'est difficile.
Sur les tu préfères. Alors, tu préfères, j'ai fait un peu de travail. Est-ce que tu préfères mettre Dupond-Moretti ou Moreau-Jaffé? Tu es plutôt SMS ou téléphone?
Alors, je me mets un peu au SMS, mais je pense je préfère le téléphone.
Plutôt soirée mondaine ou spuntino ou entre amis?
Oh, spuntino ou entre amis.
Plutôt chien ou plutôt chat?
Ça n'existe pas, chien et chat, non? Chien ou chat? Chien et chat.
Plutôt, je peux dire les deux. Hein.
Plutôt chien.
Plutôt jour ou plutôt nuit?
Plutôt jour, plutôt matin.
Plutôt ange ou démon?
Ah, ça, tu l'as déjà fait.
Oui, j'ai déjà fait. Oui.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'était veux réservé pour toi et Jérôme, non, je le sais. Ah, non,
mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, quelqu'un qui a été au catéchisme de manière aussi assidue que moi, bien, et puis qui préfère les bons aux méchants, je te dirais ange. Mais bon, ça, l'ange, quoi.
Oui, après qu'on n'aille pas te prêter.
On dessinait. Surtout qu'on l'a dit, oulala, mon Dieu. Alors, je dirais les bons. Voilà, les bons.
Plutôt
les
rêve.
Bons, plutôt les bons que les méchants. Voilà.
Plutôt rêve ou réalité?
Les deux. Les deux, parce que j'aime bien rêver.
Plutôt boire ou conduire?
Ah, tu exagères. Tu veux quoi? Que j'appelle mon avocat ou que j'ose ce genre de choses? Non, je peux boire, mais certainement pas conduire.
Plutôt Paul ou Napoléon?
Alors, là aussi, tu vas dire, mon Dieu, n'arrive pas à se décider. Mais écoute, on dira que c'est plutôt parce que je suis pluriel, moi aussi. Napoléon, je l'ai beaucoup admiré, Napoléon. Il faisait partie des personnages, on avait des bouquins, c'est les personnages de l'histoire de France. J'ai beaucoup admiré avec Champollion. Napoléon, c'était quand même quelqu'un qui était né, donc l'année de qui aurait failli ne pas être français, enfin raconter toujours des histoires. On dit la poêle et la moelle, il est allé à une école, il parlait mal le français, il a dû s'élever. Mais tu te rends compte de la trajectoire de cet homme? Pour moi, elle est extraordinaire. Il a conquis le monde, alors à juste titre, à juste raison. Moi, ça m'avait quand même... c'était, oui, pour moi, un homme remarquable. Et puis alors, je te dirais que je rebondis sur ma profession. C'est quand même lui qui a lancé quand même des grandes politiques. Il a modernisé la France, des grandes institutions, d'énormes institutions, le code Napoléon. Donc c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Alors Paoli, j'avoue, moi dans mon enfance, non, je te dis, j'avais un bouquin, c'était Champollion et Napoléon. Après, je l'ai découvert un peu plus tard, au travers de l'histoire de la Corse, au travers du fait que c'était un homme des Lumières, et effectivement, qui a fait beaucoup de choses. Donc, je prends des deux, mais je ne peux pas renier, je ne peux renier ni l'un ni l'autre.
Alors, je t'avais demandé de choisir une chanson. Quelle est-elle?
Ah oui, Soto Gilou di Orellagna.
Pourquoi ce choix?
Oh, parce que c'est une chanson qui avait été écrite par Dédé Nobile, qui est décédé aujourd'hui. Qui a été, qui avait partie de la Filette d'ailleurs, de mémoire, et qui ensuite avait intégré les Chiama Dialesi. Et c'est une chanson que j'ai. C'est une chanson qui. Ah, tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots là. Oui, so di piadi e montagne. Voilà.
Alors, nous allons te quitter là-dessus. Claudine, je te remercie. Alors, la semaine prochaine, on est encore en discussion, mais je pense que c'est l'entraîneur du ST Balagne, Noël Tozzi, qui va venir nous faire l'honneur de sa présence et nous raconter un petit peu sa trajectoire. Un dernier mot?
Non, merci. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin.
Et je vous quitte en vous disant à la semaine prochaine. Merci à tous, portez-vous bien.
Dalla osa di vicino c'era il chiaro cale.